On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Dis donc, Alex.
Quoi?
Tu te rends compte, François-Régis Gaudry, en presque 10 saisons de On va déguster, ben, il a jamais rien fait sur la Belgique.
Quoi? Il y a jamais eu une émission sur la croquette crevette?
Bah, la frite, il pense que c'est français.
Enfin, et le Waterzooi, c'est bourguignon, sans doute.
Le Stump, il pense que c'est un personnage de bande dessinée.
Enfin, les Français, ils exagèrent. Ils ont leur spécialité, mais nous, on a les nôtres. Bon, par exemple, on leur pique pas le Tour de France.
Bon, ça, on aurait quand même pas la prétention de le faire démarrer en Belgique, hein.
Non, peut-être.
Jamais la bune gorgée de gueuse, hein, jamais. Il tient pas l'alcool, de toute façon, il tient pas la bière.
Et ben voilà, les copains belges de France Inter qui nous mettent en boîte. Ils étaient ici même à notre place hier samedi pour fêter le grand départ du Tour de France à Bruxelles. Salut la Belgique, salut Bruxelles. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes en direct depuis le parc de Bruxelles, au cœur du grand départ du Tour de France, depuis le camion podium de France Inter. On va vous montrer, contrairement à ce que racontent Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, qu'on va déguster, aime la Belgique, surtout quand elle est comestible. Et on va s'intéresser en particulier à Bruxelles, un formidable terrain de jeu pour les amateurs de curiosités culinaires. Trois invités pour nous accompagner pendant toute cette émission. On est ensemble pendant une heure jusqu'à midi. Tout d'abord, une star des fourneaux en Belgique, d'une bande dessinée, auteur de nombreux livres de recettes, c'est Albert Verdeyen. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bruxelles. Hein. Ouais. Bruxellois, moi je suis. Hein.
Voilà, vous êtes bruxellois et vous êtes également avec nous car le Tour de France, ça vous connaît, Albert. Vous avez participé à 11 éditions de cette course cycliste. En qualité, je le précise, de chef cuisinier, vous nous direz comment vous avez nourri Lance Armstrong, par exemple, qu'avec des ingrédients autorisés, ou encore quelques autres coureurs du Tour de France.
Tout à fait.
Le régime alimentaire d'un coureur pendant le Tour de France est absolument incroyable, avec des chiffres stupéfiants, sans jeu de mots. Nous avons également avec nous une créatrice culinaire qui a décidé de dégainer son pistolet. Valérie Leplat, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe, merci pour l'invitation.
Rassurez-nous Valérie, pas besoin du port d'armes pour déguster ce pistolet?
Absolument pas, il n'est pas dangereux du tout, bien au contraire.
De quoi s'agit-il?
D'une gourmandise très riche et très généreuse.
On va dire à nos amis français qu'on peut parler de sandwich, hein?
On peut, allez, pour vous je veux bien.
Très bruxellois, c'est vrai qu'on le connaît mal et vous le remettez au goût du jour. Vous allez aussi nous montrer comment votre pistolet monte à vélo pendant le départ du Tour de France. Il est ici présent au cœur des animations de Bruxelles. Et puis enfin, celui qui est considéré comme le journaliste gastronomique, peut-être bien le plus expert de Belgique, mais en même temps aussi le plus discret, il tient à son anonymat, c'est Michel Verlinden, bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à Bruxelles.
Précisons, Michel, que vous êtes chroniqueur dans Bientôt à table, l'émission de notre amie Sophie Moons et confrère de la RTBF La Première. Ça se passe tous les samedis à 11h. C'est un peu l'équivalent dont on va déguster chez nos amis du service public belge. D'ailleurs, merci beaucoup à Sophie Moons qui nous a aidé à monter cette émission. Michel, vous allez nous guider sur la scène gastronomique bruxelloise à travers quelques produits artisanaux de haute qualité qui font pour vous le goût de Bruxelles, hein.
Absolument, cette identité un peu complexe.
Entre tradition et innovation,
voilà.
On va voir qu'il y a aussi des produits tout à fait innovants. Ils ont pris le Thalys avec moi depuis Paris, ce sont les chroniqueurs, mais attention, les chroniqueurs canal historique, dont va déguster Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour la Belgique.
Elvira.
Moi je vais essayer de m'y retrouver dans les belgicismes culinaires. Pas facile hein, sans y perdre son latin.
Ouais,
pas simple du tout.
Et c'est délicieux. On a fait un road trip à Bruxelles à la recherche de ces curiosités culinaires. C'était sympathique.
Et heureusement que j'ai Michel à ma gauche.
C'est ça. Dominique.
Et moi je vais essayer de vous révéler ce que contient vraiment le bidon des coureurs. Donc pour ce faire, je me suis glissé cette nuit dans les entrailles de la ville de Bruxelles, la nuit.
Très bien, et précisons pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, que Dominique porte un maillot. On peut en connaître la matière textile ou pas?
C'est un petit haut des années 60, voilà.
Ouais.
C'est un maillot
estampillé
manche. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver le reste de l'équipe, ça m'arrangerait.
Voilà, et personne ne l'a encore insulté à Bruxelles, comme quoi ils sont de bonne humeur.
Ceci
ici.
Étant, on commande votre maillot à vous ou pas, François-Régis?
Ah, il est jaune.
Il arbore un polo.
Le maillot jaune, tout simplement.
Voilà.
En toute simplicité, puisqu'on parle de grandes boucles et de grandes bouffes, attention, on va déguster, prend le départ du Tour de France à Bruxelles.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Nous sommes avec l'équipe dont on va déguster à Bruxelles depuis quelques jours. On vient quand même très souvent dans la capitale belge pour des raisons professionnelles, pour manger. Elvira, au moins 2-3 fois par an. Mais je crois pouvoir dire qu'on n'a jamais vu la capitale belge dans cet état d'euphorie. On est d'accord
ça,
ou pas?
L'ambiance est électrique, tout le monde est de super bonne humeur, on est hyper bien reçu. Puis nous, ça nous... Enfin, on a des ailes qui poussent, hein. On s'est goinfré de gaufres hier, François Régis.
Il fait beau, il fait chaud, Dominique.
Et on comprend tout ce qui se dit, on parle la même langue, c'est facile.
C'est ouais. Ça, ou presque, ouais. Il règne une atmosphère assez festive. Nos invités, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette atmosphère estivale? Alors, il y a la chaleur, il y a le beau temps, évidemment, mais il y a évidemment le facteur Tour de France qui est important, Michel Verlinden.
Ah ben là, pour moi, c'est le paradis. Si ça fait 15 jours qu'on a un temps magnifique, les gens sont radieux, non, je pense que c'était le bon moment pour venir à Bruxelles. Là, vous avez bien choisi.
On est plutôt bien tombé, ouais. Valérie, plein de gens à la terrasse des cafés, des gens qui croquent aussi le fameux pistolet.
Oui, oui, c'est une ambiance très populaire et grand public, et on partage vraiment nos valeurs avec les gens, on s'amuse, voilà, avec le temps qu'il fait, c'est vraiment magnifique, ouais, très chouette.
Albert, on adore le vélo, on adore aussi, évidemment, la bonne bouffe à Bruxelles. Oui. Il y a de vrais, vrais bons vivants. Belle ambiance ce week-end.
Belle ambiance, et en plus, il faut tout simplement savoir que le Bruxellois est l'homme le plus sympathique du monde, hein, comme la cuisine. Hein.
On est assez d'accord.
Il n'y a pas à chercher. Hein.
Beaucoup plus sympa que le français, humble, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, on n'en doutait pas une seconde. S'il fallait, allez, définir en quelques mots le goût de Bruxelles par une anecdote, un détail, une habitude de table, quelque chose qui définirait effectivement cette identité culinaire de la capitale belge. Honneur à Valérie Leplat.
Alors c'est un melting pot, c'est-à-dire que Bruxelles et puis la Belgique aussi, c'est un mélange de repas tartines, de gourmandises, de plats mijotés. Le repas reste quelque chose vraiment au centre de nos vies et de ce partage en fait en famille, entre amis. Donc c'est quelque chose de très très généreux et qui concentre des produits et des recettes très différentes les unes des autres. On est à Bruxelles et en Belgique, on est en plaque tournante de plein de choses. On est au cœur de l'Europe, au cœur du monde. Allons-y, carrément.
Et voilà. En toute simplicité, bien sûr. Bien quand sûr. Vous parliez de repas tartines, c'est l'importance, effectivement, du pain, de la tartine, oui, sur laquelle on étale des choses à manger,
ben oui, nous,
dans des repas qui sont plutôt froids.
Absolument. On soupe un peu moins qu'avant, mais nous, on soupe. Donc, et le souper, c'est plutôt la tartine, le potage, on trempe dans le café, on passe du sucré, du salé. Avant, on mangeait un repas complet le midi, ok, mais le soir, on soupait. Et voilà, ça, c'est encore resté dans pas mal de familles.
Et on va voir d'ailleurs que ça reste évidemment au cœur des, oui, habitudes des Belges, et notamment à
avec
travers ce
pistolet,
fameux pistolet dont,
oui,
on va parler tout à l'heure,
mais
bien, oui, sûr. Michel Verlinden, il y a un mot pour vous,
oui,
un mot un peu curieux à l'oreille des Français, qui résume, selon vous, l'état culinaire, entre guillemets, de Bruxelles.
Oui, c'est le mot zineke, c'est un mot qui est souvent prononcé à Bruxelles, et zineke, c'est un petit chien, à la base, c'est un petit chien bâtard, en fait. Hein, qui est
un cornio, quoi.
Un cornio, exactement, voilà. Et j'ai l'impression que l'identité bruxelloise, elle est un peu comme ça, c'est pas une identité agressive, on n'est pas, il n'y a pas d'arrogance, mais c'est une identité qui se dessine un peu en creux. Et il y a des petites merveilles qui s'y cachent.
Alors, ouais, précisons évidemment qu'il y a les influences flamandes et wallonnes qui, ouais, se mêlent,
oui,
dans les, ouais, marmites bruxelloises, oui, plus toutes les autres communautés quand même d'immigrés qui sont très importantes.
Absolument. Et puis, c'est vrai que parfois, j'entends en France, quand j'y vais, les gens simplifient un peu. Ils disent « Ah oui, vous, les flamands et les wallons ». Ils disent « wallons » en général.
Ouais.
Et en fait, Bruxelles, c'est justement pas ça. Parce que dites à un bruxellois qu'il est wallon, il va pas se reconnaître dans cette identité. Il est pas flamand non plus, pourtant il est en région flamande. C'est complexe, quoi. C'est un mélange. Moi, par exemple, mon nom c'est Verlinden. Mes grands-parents, ils ne parlaient que flamand.
C'est ça.
Et moi, je parle français. Donc, c'est difficile de faire de tracer une frontière bien, bien claire. C'est ça qui est intéressant, c'est toute la richesse.
Il y en a un qui est précisément une espèce de concentré de toutes les influences qui traversent la Belgique et Bruxelles, bah c'est Albert,
oui, oui,
Verdeyen.
Oui, oui, c'est ça, je suis un quête de Bruxelles. Vous avez à Paris le Titi parisien, moi je suis un quête. Donc c'est un mélange de français, de flamand, et alors quand on parle ce bruxellois, on mélange tout ça comme un bon stoump, n'est-ce pas, on va en parler du stoump. Et le fait de la cuisine bruxelloise, pour moi, c'est que nous sommes des gens, comment dirais-je, simples, mm-hmm, mais très conviviaux. Donc si vous êtes sympathique, on va tout de suite boire un verre ensemble, hein. Ça va pas faire un pli, hein. Et après on mange, nous sommes des épicuriens, on aime ça, on aime la vie. Le bruxellois, il aime bien tout simplement rigoler, quoi. Voilà.
C'est un tough pays, comme
merci,
on dit,
voilà.
C'est ça.
Enfin, quelqu'un qui voit clair ici. Voilà.
Avec Elvira, nous sommes allés faire un tour au centre de Bruxelles hier. On n'a pas pu s'empêcher de manger des frites. Est-ce que, selon vous, c'est un peu le réflexe caricatural du Français qui vient en goguette dans la capitale belge pour s'engouffrer de frites? Ça vous déplaît qu'on résume justement votre ville à ce totem gastronomique qui fait tant rêver les Français?
Bah oui, un petit peu quand même, même si la bonne frite, elle est excellente, mais elle n'est pas bonne partout, donc il faut faire un peu le tri. C'est vrai que juste le chocolat,
Où est-ce qu'elle est bonne, s'il vous plaît?
Bon, écoutez, ça, on donnera les adresses précises
plus tard.
Alors, la place Flaget, moi, la friterie de la place Flaget, je trouve qu'elle est vraiment excellente.
D'accord. Ah, ça.
Et alors, j'ai un petit coup de cœur pour celle aussi à Saint-Josse. Ouais. La Saint-Josse.
La friterie
voilà.
Saint-Josse, ouais, on est bien d'accord. Ouais. Palma, elle est équatorienne voilà. Et elle travaille cette vraie frite belge, c'est-à-dire cuite en deux cuissons.
Voilà.
Avec du gras de bœuf, évidemment.
S'il vous plaît.
Du blanc de bœuf. Et on est allé goûter celle d'un chef 3 étoiles néerlandais, Sergio Herman, qui s'appelle Fritatelier. Ouais. Elle se tenait bien.
Elle était vraiment très bien, elle était croustillante, les sauces étaient top. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'elle
n'était si
pas au gras de bœuf. Elle était plus civilisée, peut-être.
Ah, on sait
végétale.
D'accord, ils font tous l'amour, en fait. Là, ils font. Ils font les polis, mais ils valident pas cette frite. Je vous propose quand même d'aller la goûter derrière votre poste.
Ouais.
Ah, elle reste quand même assez bonne, mais bon, on n'est que français.
Ouais, mais ça manquait de gras de bœuf, quoi.
On n'est peut-être pas les mieux placés pour juger une frite. À bord du camion, au podium de France Inter, notre réalisatrice de l'été, Camille Blanès, avec les équipes techniques de Radio France et Nadia Chougui. Djoubaka, notre programmateur musical, nous a déterré une petite pépite belge. Si je vous dis...
Plastique Bertrand.
Ça vous dit quelque chose?
Ça, je crois.
D'accord. Je vous propose une reprise belge
pour nous.
Ça gaze pour moi, très exactement, dans sa version belge. J'adore cette petite curiosité musicale.
Je suis slump comme une savate, je vais chômer, c'est plus gay. Et je suis quand même payé, ça c'est du spec pour mon bec. Moi je suis le mec. Ça gaffe pour moi. What is that, si veut rire, tu trimes comme un souquelaire. Il faut être zozbo et cinglé. Moi je dors comme une marmotte la journée. Puis je vais jouer au pitcher's back et boire ma jatte. Après je suis zap. Surmenage, je suis peinard et pas une poire. Faut pas croire, bon c'est trimé, fatigant. Ik ben le king van de Lourik. Je trouve que ça fait chic. Ik ben le king van de Lourik. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Qu'on dise au kerme quand on me voit. Journée, je dois quitter le bain, mais je suis pas seul. Tous mes potes sont là.
Le midi pour les coureurs, c'est le Sahara. Le pays de la soif. Par une chaude journée, ils arrivent à transpirer 3 ou 4 litres. Alors ils boivent. Ils boivent n'importe quoi, ce qui leur tombe sous la main. De la bière, du vin rouge, du champagne, des chocolats glacés.
On va déguster les saveurs de l'été.
Une archive de l'INA datant de 1963 et qui raconte quand même que les coureurs du Tour de France à cette époque-là, dans les années 60, ne buvaient pas que de l'eau.
Mais il faut faire attention, le petit remontant à une certaine dose, ça peut ressembler à un gros descendant quand même.
Oui, c'est ça.
Faire attention.
Et d'ailleurs, je dois révéler que Dominique m'a envoyé une photo assez cocasse par SMS, un cycliste quand même habillé comme un cycliste de la tête aux pieds, qui était en train de se réhydrater au comptoir d'un café.
Directement avec une belle bière, avec une belle mousse au sommet, ouais.
Ça vous étonne ou pas, Albert Verdeyen ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que parfois le soir, j'autorisais les coureurs à boire une, j'ai bien dit une bière, hein, pas deux, hein, une bière, ou alors un bon petit coup de rouge. Il faut savoir que le Belge adore le vin français, d'ailleurs. Et c'est pas interdit, tout à fait. Ça calme un peu, c'est bon pour la digestion. Une bière, c'est très bon. Ça ouvre l'appétit, mais aussi c'est très bon pour la digestion.
Mais le médecin du Tour était d'accord avec ça ?
Ah, je lui ai demandé, ouais. Non. Mais c'était tout à fait plausible. C'est aussi suivant les courses qui suivent le lendemain, bien sûr. Si c'est une course importante, là, on rester assez dans les eaux.
Il ne faut pas s'interdire de penser que ça peut être aussi un instant de détente psychologique.
Exactement.
C'est éprouvant de faire le tour.
Hein, Dominique ?
Albert, vous avez assuré quand même en tant que chef cuisinier 11 éditions du Tour de France. Vous vous êtes arrêté. C'est même, je crois, la première année ou la deuxième année où vous n'êtes pas sur la grande boucle.
C'est ça.
Pour nourrir les coureurs.
Oui. Mais maintenant, on a deux gars qui sont full-time avec l'équipe Quick-Step. Et donc, moi, personnellement, j'ai plus trop le temps de partir parce qu'il faut savoir que quand on fait le Tour de France, on est parti au moins minimum un mois.
Oui.
Donc, on est un mois avec ses coureurs tous les jours. Et bien sûr, il y a l'amitié qui se lie. J'ai fait beaucoup de choses pour Lance, pour Cadel Evans, pour Philippe Gilbert et d'autres coureurs, Greipel, qui sont tous des gens très, très sympathiques. Et le fait, c'est que ces gens sont tellement entourés tout le temps, c'est que le seul moment où on leur fout la paix, c'est à table. Quand ils mangent.
Mais alors, j'imagine que leur alimentation est quand même assez encadrée par leur entraîneur sportif. Vous nous avez raconté en préparant cette émission qu'un coureur du Tour de France brûle, écoutez bien, en moyenne, dans une épreuve de montagne, 15 000 calories. Il faut donc adapter évidemment l'alimentation du sportif à cet effort très intense. Il doit boire par ailleurs de 10 à 15 litres, alors on va dire que c'est de l'eau, par jour. Ouais. Mais évidemment, le menu type d'un coureur du Tour de France qui produit un tel effort journalier, qu'est-ce qu'il consomme au petit déjeuner ?
Bon, on va rajouter une heure dans l'émission maintenant, donc je vais expliquer ce qu'un coureur mange le matin. Le matin, c'est 5-6 crêpes, c'est une omelette entre 6 et 8 œufs, plus des blancs que des jaunes pour les protéines,
oui.
Avec ou pas des pommes de terre à l'intérieur, comme une tortilla. Puis ce sont deux pains français, donc des baguettes, n'est-ce pas ? Nous, on appelle ça des pains français, avec la charcuterie, beaucoup de salé. Puis il mange un demi-cake. Un 4 quarts, par exemple.
Ah, mais vous rigolez.
Non, j'ai pas fini. Hein.
Ah oui.
J'ai pas fini. Après, il mange encore des cornflakes avec du lait, bien sûr. Il boit à peu près 1 litre de café. Le café, c'est diurétique. Et puis, quelques fruits. Mieux manger un fruit que de le boire, parce qu'ils sont très fragiles de l'estomac. Hein.
C'est ça.
Donc, voilà. Et puis, après...
Il mange pas de budding.
Oh, bien joué. Un bon budding.
Oh là là. Là, il y a du teasing sur une spécialité qu'on a découverte hier. Le budding en un mot.
Un pudding, en quelque sorte.
Ouais. C'est ce qui fait que c'est le restant des morceaux de pain, c'est mariné dans du lait, du rhum, un tout petit peu, je sais mentir aussi, hein, et du raisin.
C'est bien pour le coureur, ça.
Très bien,
régime
parfait.
De champion.
On sait recycler également, évidemment, le pain rassis en Belgique, avec le budding notamment, cette superbe spécialité. Alors, il mange beaucoup au petit déjeuner avant l'effort,
oui.
Et ensuite, quand est-ce qu'il continue à s'alimenter,
bah, déjà
les coureurs
Déjà sur le vélo, ils prennent des barres...
énergétiques.
Voilà, c'est ça exactement, merci. Alors, le fait, c'est de savoir, quand les coureurs arrivent à l'hôtel, est-ce qu'ils ont encore un trajet entre l'arrivée et l'hôtel, pardon. Donc parfois on prépare des salades. Alors là c'est des salades de pâtes, salades de quinoa, salades de lentilles dans le bus. Ils arrivent à l'hôtel, ils se font masser, une bonne petite douche, et là on réattaque le soir avec
quoi ? Un œuf dur avec une belle maillot jaune.
Ça c'est.
Oh.
On voit que monsieur en connaît un rayon. Hein.
Maillot jaune, d'accord. Non, mais tout le monde avait compris dans le public, en fait.
Voilà. Et donc, le fait, c'est là, c'est important aussi, le soir, c'est le seul moment, j'ai toujours expliqué aux coureurs, c'est le seul moment où on vous laisse tranquille. Donc, avant, ils mangeaient très, très vite, pour être très vite dans leur chambre, et très vite sur Internet, et discuter avec qui. Non. Il faut rester au minimum 2 heures à table. Et là, ça commence. Donc, il y a forcément, suivant les intempéries, souvent, c'est un bouillon de légumes ou un potage. Après, c'est une entrée, puis c'est le plat, bien sûr, et puis c'est le dessert. Alors, ça part souvent sur du poisson, beaucoup de poisson,
oui.
Beaucoup de légumes.
Oui.
Légumes poêlés, non pochés.
Oui.
Parce qu'au plus court est la cuisson d'un légume, au plus qu'il y a de goût, de couleur et de vitamines dans les légumes. C'est-à-dire, donc, c'est tout est fait à la minute. Et bien sûr, viande, pas trop de viande, hein, beaucoup de volaille.
D'accord.
Beaucoup de viande blanche et du poisson, évidemment.
Et j'ai appris avec vous qu'il fallait beaucoup de féculents et de pommes de terre, notamment.
Ah,
peut-être plus que de pâtes, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Au départ, c'est vrai qu'il y a 11 ans, ils mangeaient des spaghettis tous les jours. C'est bon, un spaghetti, mais tous les jours, à la longue, on en a un peu ras-le-bol. Hein. Donc, on a un peu changé ça avec d'autres produits. Alors, le meilleur produit pour un cycliste, et même s'il y a des amateurs de vélo, c'est de manger des lentilles. Les lentilles, c'est rempli de fer. C'est aussi bien chaud, c'est aussi bon que chaud que froid. Ou alors après en potage. Et c'est pour moi un des meilleurs aliments qui existent. Donc tous les produits secs, bien sûr.
Vive les légumineuses, on est d'accord. J'ai appris avec vous, Albert Verdeyen, qu'on peut être aussi un grand champion du vélo, voire même le plus grand coureur cycliste de l'histoire du vélo, tout en étant bon vivant.
Oui, tout à fait, oui. Ben, écoutez, Eddy Merckx est un bel exemple. C'est vrai que les coureurs, ils sont tellement sollicités pendant 3 semaines. Après, ils se laissent un peu aller. Ce sont des gens très accessibles. Ce n'est pas le monde du foot, par exemple. Ce ne sont pas des grandes stars. Ce sont des grands sportifs, au demeurant. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais ils savent rigoler, hein, on se marre bien. Hein,
ouais. Alors, Eddy Merckx, il a 74 ans, bon pied, bon oeil. Vous le croisez régulièrement. Je crois même qu'il fréquentait un des restaurants que vous avez tenus par le passé.
Oui, vous êtes bien informé.
Oui, absolument.
Hein, et Eddy Merckx qui était toujours avec Paul Van Imst qui est aussi un grand joueur de foot.
Bien sûr.
Et il y a une anecdote assez sympathique que mon père m'avait appris. À l'époque, Eddy Merckx roulait avec le t-shirt Faema, qui est une société italienne de café.
De café, ouais.
Et Faema, donc quand on lit les lettres, on disait toujours faites attention, Eddy Merckx arrive. Donc c'était assez drôle à l'époque.
Ouais. C'était assez drôle. Et il avait notamment comme péché mignon, entre autres, un plat typiquement belge. J'aimerais que vous nous ouais. J'aimerais que vous le fassiez découvrir aux auditeurs français.
Alors, ça dure 3 semaines par an, ça s'appelle les jets d'houblon.
Les jets de houblon. Ouais. Hein. Houblon, ça parle à Dominique.
Oula.
Donc, c'est cuit dans de l'eau et légèrement fariné pour bien garder les jets bien blancs, bien croquants. Et par-dessus, un œuf poché. Attention, un œuf poché, petite astuce, quand on fait un œuf poché, il faut prendre de l'eau qui frémit, elle ne doit pas être à 100 degrés. Elle frémit, alors vous mettez un peu de sel et vous tournez l'eau comme une toupie. Et quand vous cassez l'œuf dans l'eau, comme ça fait une toupie, le blanc va directement autour du jaune. Et ça fait une belle petite balle de golf. Voilà.
Magnifique. Bah écoutez, super.
Les astuces sont gratuites. Hein, c'est pas...
Et vous avez écrit avec votre complice Marc Van Steen, je prononce bien Stan ?
Van Staan.
Van Staan, excusez-moi, petite friandise du cyclisme belge.
Oui.
Ça, c'est un livre délicieux. On trouve beaucoup d'anecdotes autour du Tour de France notamment. Et puis, vous êtes le héros d'une bande dessinée Chef Albert.
Ouais.
Recette belge, on y trouve vraiment l'anguille au vert,
les croquettes crevettes,
les
boules de Merlin.
Chez Joker Édition, on n'y trouve pas de pistolet.
Non, parce que bon, il y a une dame qui est spécialiste là-dedans, donc je veux absolument pas mettre les pieds dans le plat, si je puis dire.
Oui,
parfait, parfait, Albert.
Car la gastronomie belge profite du grand départ du Tour de France pour se mettre en selle, justement. Valérie Leplat, vous remettez au goût du jour. Allez, on va appeler ça une icône de la gastronomie belge, mais la gastronomie belge versant plutôt cuisine de rue, street food, casse-croûte, on mange sur le pouce avec le pistolet, qui n'a donc rien à voir avec une arme à feu.
Tout à fait, c'est notre petit pain national, comme on pourrait le comparer à votre baguette, si on veut, sauf que la forme est fort différente. Elle est ronde, elle est fessue, c'est très 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 important.
Fessue, tiens,
fessue,
la forme de fesse. J'aime la langue belge, oui, absolument.
C'est un petit pain qui est croquant à l'extérieur et qui est moelleux à l'intérieur avec une belle mie aérienne.
C'est vrai qu'on l'a goûté, c'est extrêmement
très moelleux, très nuageux.
Oui.
C'est un vrai pain. Et le problème, mais ça, il n'est pas lié à la Belgique. Il y a eu une perte, je crois, de confiance sur le travail autour du pain en règle générale. C'est pas que, je crois que c'est en Europe et bien plus loin. Et donc, on l'avait perdu un peu, ce pistolet, parce que le seul qu'on trouvait encore dans certaines boulangeries, que ce soit dans le Nord ou enfin partout en Belgique, c'était plutôt un petit pain rond, effectivement, mais croquant, d'accord, mais avec rien dedans, juste du carton. Et donc là, on a recherché à faire une vraie recette.
D'où vient le mot pistolet ?
Alors, il y a plusieurs histoires. Celle qui est la plus plausible remonte au Moyen-Âge. Et en fait, c'est l'étymologie du mot pistole, qui viendrait de pistor, qui viendrait de meunier, qui viendrait du pain, et patati patata. Donc ça, c'est la version la plus plausible. Après, il y en a des chouettes aussi qui sont plutôt... Ben voilà, c'était l'unité de change du pain qui était l'ingrédient principal de nourriture à l'époque aussi.
Dans sa version originelle, le pistolet tel qu'on le croquait à Bruxelles avait une garniture particulière.
Il y en a plusieurs, mais on va dire les plus courantes sont, et la plus véritable des Bruxellois, c'est le haché pickles.
Oui, hachis pickles. Alors là, il s'agit d'une espèce de tartare.
Ouais. Non, oui, alors c'est du haché de porc cru, donc c'est très spécial. Hein. Les Japonais, les Asiatiques viennent nous regarder avec des grands yeux. Et donc ça, c'est le fameux pistolet de Bruxelles qu'on mange au marché matinal, qu'on mange au match de foot. Nos plus grands amateurs, grands chefs belges et autres sportifs le connaîtraient très bien.
C'est tonique, très tonique.
Très tonique.
Qu'est-ce que vous êtes en train de déguster, Dominique ?
Moi, je me suis mis dans les roues du chef des diététiciens. Je suis honneur à mon maillot de coureur. Du coup, j'en ai mangé la moitié, là. C'est celui-ci, justement, oui, voilà. Au piqueur. C'est vraiment très tonique. Ouais. Je peux entendre que le matin, sur le marché, ça fasse du bien pour
ça remet tout
l'étape
en place.
Du jour. Ouais.
Oui, et puis après, une bonne gueule de bois, je peux vous dire que c'est parfait.
On peut
pardon.
C'est
en règle générale.
Vous trahissez des secrets. On va parler dans un instant bière avec Dominique, évidemment. Votre pistolet monte en selle vraiment au sens propre, ici, au cœur du grand départ du Tour de France.
Oui.
Puisque vous avez inventé un... Allez, on va appeler ça un food bike.
On a remis
ça voudrait dire
un vélo gourmet. Street food, justement, qui est amusante avec le pistolet. Et donc, on a un vélo, ce qui est présent dans le fan park. Venez nous voir. Et on est là depuis, finalement, le début des festivités.
Et vous avez deux adresses pour déguster vos réinterprétations
pistolets. Oui, dans des lieux
pistolets.
Très chouettes à Bruxelles, le Sablon et rue des Bouchers aussi, donc à l'angle des galeries Royal Saint-Hubert. Et puis voilà, on essaye de refaire découvrir des produits typiquement bruxellois. On pourra parler du Keep Cap, du Bloom Punch, des choses peut-être qui sont...
Ah, ça y est. On est perdu.
On est perdu.
Michel, vous nous confirmez que les pistolets de Valérie Leplat, et c'est ce qu'on aime d'ailleurs, sont garnis de produits très locaux. Vous faites attention évidemment au sourcing régional.
Tout à fait, ça c'est vraiment notre bonheur.
Michel. Oui, et je trouve que la texture est particulièrement intéressante. On retrouve ce croquant en fait. Longtemps on a perdu. C'était devenu une petite chose molle et triste. Et c'est vrai que vous en avez fait quelque chose qui croque.
La texture est stupéfiante. Hein. Il y a une croûte à la fois vraiment craquante, il y a une mie extrêmement duteuse.
C'est du vrai pain, en fait, point final.
Oui,
c'est
mais
ça
c'est
le
différent.
Problème,
il faut peut-être que ceux qui nous écoutent
retravailler le pain.
À se figurer ce pain, mais il est différent de la baguette.
Mais c'est le contraste qui est frappant entre le moelleux et la croûte.
Tout à fait étonnant. Les pistolets de Valérie Leplat, je crois que quelqu'un dans le public, juste devant le camion podium de France Inter, veut réagir. Bonjour madame.
Oui, bonjour, je m'appelle Christine, je suis bruxelloise et fidèle auditrice du dimanche 11h.
Ah, ça nous fait plaisir d'être écoutée par des Belges et des Bruxellois.
Voilà, alors j'ai goûté le pistolet aux crevettes grises. Alors il y a crevettes grises, tomates, coupées en petits morceaux, mayonnaise.
Beaucoup de mayonnaise.
Alors je dirais que c'est la tomate crevette revisitée, c'est l'autre plat, un des plats, nos plats nationaux, la tomate crevette. Alors quant au pistolet, au petit pain, mais c'est vrai qu'on en trouve dans toutes les boulangeries et qu'il faut aller très loin pour en trouver de bons. Personnellement, j'ai renoncé, mais alors je trouve que celui de pistolet original, il est particulièrement très très bon et correspond à ce qu'on attend.
Merci beaucoup. Faut remercier Yves Guns, qui est notre boulanger, qui a créé cette recette et qui nous appartient. C'est une recette exclusive.
Un boulanger de renom à Bruxelles. Et ben voilà, le pistolet de Valérie Leplat validé par une gourmette bruxelloise. Merci beaucoup madame. Dans un instant, on va entrer dans le panier garni de Michel Verlinden et on va voir qu'il n'y a pas que de la tradition à Bruxelles, mais également de l'innovation. Juste avant, petit inventaire des drôleries comestibles de Bruxelles par Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Elvira.
Chers amis belges, on a beau être cousins, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne nous facilitez pas toujours la tâche avec votre jargon culinaire qui bruxelle à plein volume. En bref, on est un peu largués. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qu'on aime tant ici, parce qu'à la fois on se ressemble, et en même temps ça n'a pas grand-chose à voir. Albert Verdeyen, la préface de votre livre est un poème tout en allitération. Vous y parlez de votre enfance, une enfance bruxelloise tout en consonne, avec beaucoup de K.
Ouais.
Le mercredi après-midi...
Très beau texte d'ailleurs.
Magnifique. Vous faisiez la fête au Balekes. Balekes, boulette. Quand vous ne traîniez pas au Bollewinkel. Magasin de bonbons.
Corrigez-la, s'il vous plaît, si elle n'a pas la bonne prononciation.
Parfait.
Oh là là, je rêve. Elle a pris des cours en cachette.
Un belge très pur.
En fait, la Suède, ça aide, là. À vos goinfrés de Kalisch, réglisse. À Anderlecht, c'était Buterame et Etekais. Tartine au fromage de Bruxelles. Ou mieux encore, de Potekais. Fromage de Bruxelles mélangé avec du fromage blanc frais. Arrosé d'une, j'ai dit Dominique, en cas... Dominique,
K.
Arrosé d'une, cric.
Dominique.
Pour aller voir les matchs de foot où vous emmeniez des pistolets, Valérie, au Keep Cap. tête pressée à la moutarde, wow, ou au gekapt, hachi, accompagné de pickles, évidemment.
Génial.
On change de consonne, on passe au B, mais j'ai un peu vendu la mèche. Hier soir, chez François, l'institution de la place Sainte-Catherine, pour le dessert, on a commandé évidemment un B comme budding. Donc, ce parent du pudding, rien ne se perd, tout se transforme, c'est l'art de récupérer les restes de pain.
Il y a une dame qui est en train de l'avaler au premier rang, là. Le budding, ça a l'air de bien
ça
se passer.
Ça passe tout seul, ça glisse bien.
Comment ça va, madame?
C'est délicieux.
Ah oui, ça c'est le budding en direct.
Oui, mais on connaît bien, mais c'est délicieux.
Signé Albert Verdeyen.
Pas très loin du budding, dans le dictionnaire sucré, à B toujours, il y a le bolu, ou bolus, ça je sais pas comment ça se prononce.
Bolus.
Celui que je vous ai apporté vient de la boulangerie Charlie. C'est une couque faite de pâte feuilletée levée, roulée dans la cassonade et les raisins. Toujours beaucoup de cassonade et de raisins en Belgique. Hein. Parfois garnie de crème pâtissière. Il y en a un petit peu là et c'est une merveille. À B, toujours, François Régis, hier j'ai essayé de vous forcer à aller chercher une boule de Berlin à Uccle,
oh là là,
à la boulangerie du Saint-Olay. Et puis finalement, c'était tellement goinfré de gaufres que qu'on s'est assis sur un banc. Mais heureusement, Valérie nous a sauvé la mise ce matin.
Mais difficile à trouver, hein. On a envoyé des SMS à Michel Verlinden. Où est-ce qu'on peut trouver de la boule de Berlin? On en veut.
La boule de Berlin, c'est ça.
Le pistolet original.
Qu'est-ce que c'est la boule de Berlin? Si on veut vraiment faire un rapprochement avec quelque chose de français, ben c'est un beignet à la crème pâtissière. Oui. On n'est pas très très loin d'un genre de tropézienne aussi. Mais la boule de Berlin, c'est la boule de Berlin. C'est comme ça. Et c'est là qu'on touche, c'est un peu la deuxième couche du problème. Après les problèmes de prononciation, viennent les spécificités géographiques qui ne servent qu'à mieux nous semer. La boule de Berlin a une origine germanique, c'est bien ce beignet, mais il y a également la couque suisse. Et là, c'est Michel qui m'a mis sur la voie. Qu'on appelle communément, bah tiens, pourquoi pas, la couille de Suisse. C'est bien ça ?
La couille de Suisse.
La couille de Suisse, des boules de pâte à pain plongées dans de l'eau bouillante et servies avec un beurre noisette et de la cassonade brune. On raconte que la recette a été importée dans le Hainaut belge par une garnison de soldats suisses qui stationnaient à Valenciennes dans les années 1830.
D'accord.
30. Mais alors le pompon, pour moi, c'est ça.
Ah oui.
Qui nous vient de la vénérable maison d'Andoie.
Quelqu'un a deviné dans le public ou pas ? On ne dit rien ? Ah bravo, le pain grec, j'ai entendu. Hein.
Voilà.
Pain à la grecque.
Pain à la grecque.
Pain à la grecque, c'est Madame en violet.
Il vient donc de chez D'Andoie, qui est spécialiste également des gaufres précités, des spéculoos, du masse-pain, du pain d'amande. Jusque-là, c'était assez facile. Évidemment, il n'y a rien de grec dans l'affaire. Au XVIe siècle, les frères du Fossé étaient ainsi appelés car ils vivaient dans un couvent situé rue du Fossé au Loup. Ils confectionnaient un pain moelleux roulé dans le sucre, appelé brot van de Grecht.
Soit, c'est le fossé.
Soit pain du fossé. Ouais. Grecht, c'est fossé en flamand. Et ce sont les troupes françaises qui occupaient Bruxelles à la fin du XVIIIe siècle qui ont mépris Grecht pour grec. Grecht pour grec. Et qui ont
courage.
Rebaptisé cette spécialité pain à la grecque. Pour un peu, on y perdrait son latin, non ?
Ah ouais, on y perd son latin, on pourrait... Oui, heureusement que la frite est française.
La frite...
Vous l'appelez bien French fries ici,
non,
la frite française.
Non, commencez pas avec ça parce que ça sent titille, moi.
Non, ça va chauffer.
Attention. Sinon,
là. On va les titiller un peu, justement. Allez, on entre, on met un premier doigt, on va dire, puisque tout au long de cette émission, vous allez égrener quelques produits très gourmands, Michel Verlinden. Un premier doigt dans votre
panier
garni, à commencer par...
En commençant par ce zen kimchi.
Donc, incroyable.
Oui, donc pas du tout un produit traditionnel, c'est vraiment le terroir réinventé. Alors j'aime bien ce produit parce que derrière, il y a une histoire d'un couple qui était en difficulté financière,
oui,
et qui s'est dit qu'il ne voulait pas sacrifier sa manière de manger. Ils voulaient continuer à manger des bons légumes, pas acheter des produits au rabais. Et donc, ils ont commencé à conserver, à se spécialiser dans la lactofermentation. Et ils l'ont fait pour eux. Et puis, petit à petit, ils ont acquis un savoir-faire. Et, à tel point qu'ils ont commencé à voir... donc, la Seine, il faut savoir, c'est la Seine. C'est la vallée de la Seine. Donc, vous avez la Seine. Nous avons la Seine.
S-E-2-N-E.
S-E-2-N-E, voilà. Et donc, elle est allée voir tous les maraîchers qui travaillaient en bio autour de chez elle.
Oui.
Et elle les a travaillés en lactofermentation, les légumes, donc, c'est-à-dire des choux, des carottes et tout ça. Et elle en fait un kimchi. Donc, kimchi, c'est coréen.
Bien
rien
sûr
à voir avec Bruxelles. Mais elle réinvente le terroir. Et ça, je trouve vachement intéressant de redonner sens aussi. C'est bon, c'est génial les produits centenaires et tout ça, mais ici il faut redonner le goût, surprendre, et c'est pour
idée
ça que ça m'a passionné, ouais, vraiment.
Signalons que le kimchi est une espèce, c'est effectivement une spécialité coréenne, un condiment,
oui,
on pourrait presque la comparer à notre choucroute, hein,
c'est oui,
le,
oui,
du,
oui,
du chou lacto-fermenté.
C'est le principe.
Et là en l'occurrence, ce qui donne cette couleur bien cuivrée, bien rouge, c'est du piment, j'imagine.
Voilà, et exactement, c'est relevé, ouais, absolument.
Bah voilà,
ouais.
C'est ça, les échanges, les jumelages, les jeux de terroir.
C'est itinéraire bisque gourmand. roman qui fait ça. Ils se sont appelés comme ça et c'est vraiment des gens à suivre.
Voilà, ouais. Preuve qu'on peut croquer évidemment la carte postale et la tradition à Bruxelles, mais pas seulement. Il y a des petites start-up, des artisans de bouche qui font des choses très innovantes et surtout orientées vers une très très grande qualité. On se retrouve dans un instant justement pour évoquer bien d'autres produits dans votre panier garni, Michel Verlinden, et puis on va continuer à parler recettes et puis évidemment on va parler bière avec Dominique Hutin et une recette emblématique qui là encore ne doit pas dire grand chose à beaucoup de Français. Comment ça se prononce, Albert ?
Alors, on dit pas le, on dit the stump.
The stump en bon français, vous nous expliquerez de quoi il s'agit précisément. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. I feel good, évidemment, vous l'avez reconnu, James Rand, et ben nous, we feel very good à Bruxelles. On va déguster Croque Bruxelles par tous les bouts et par tous les goûts. Nous sommes au cœur du grand départ du Tour de France avec des invités haut en couleur. Valérie Leplat qui remet au goût du jour le pistolet à Bruxelles, mais également au cœur des animations du Tour de France. Michel Verlinden, notre critique gastronomique qui a fait pour nous un tour de Bruxelles à la recherche des meilleures pépites comestibles. Et puis Albert Verdeyen, évidemment, qui va nous parler dans un instant du...
Stump.
Stump, bravo, ça s'écrit
S-T-O-E-M-P.
Voilà, O-E, il faut le savoir. Ouh. Ça se prononce OU, voilà, c'est tout simple. Un autre mot, Michel Verlinden,
ah,
qui
oui.
écorche un peu l'oreille des francophones, ou en tout cas des Français, parce que vous, vous avez l'habitude. Mot imprononçable, spécialité fromagère, vous nous l'avez apporté, elle oui. est emblématique.
Oui, le Manchescas.
Manchescas, tout le monde connaît dans le public, levez la main. Bah bien sûr. Ah non.
De nouveau, madame qui est enceinte, qui a mangé 2 kilos de bobine.
Les traditions.
Alors justement, madame, vous connaissez ?
Le bodding ?
Non.
Elle en veut encore, je crois.
Oui, oui, je veux bien encore un peu de bodding. Oui.
Mais cette spécialité fromagère, Manchescas.
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 Mais c'est, oui, j'en ai déjà goûté dans un restaurant bruxellois. Alors, je pense que c'est peut-être le fromage de Bruxelles qui sent extrêmement fort, ou je me trompe
ah,
peut-être.
Ah non, c'est pas tout ah, à fait ça. Trompe. Il y a nuance.
Désolé.
Il y a nuance.
Alors, ouais, Michel voilà. va nous éclairer, même éclairer visiblement alors nos auditeurs belges aussi.
Oui, oui, parce que c'est vraiment quelque chose en voie de disparition. Il n'y a plus qu'un seul producteur aux, alentours, de, ouais, aux alentours de Bruxelles, à Bercel, très exactement. Exactement, la fromagerie Walscott. Et voilà, c'est une faisselle, en fait. Vous diriez faisselle. Et
dans, c'est... dans son petit panier en osier.
Et goûté dans ce panier en osier et vendu. Alors là, je voulais amener en version pot en plastique, mais normalement, c'est emballé comme un petit suisse dans un joli petit papier, comme ça, c'est magnifique. Quoi.
Est-ce qu'Elvira peut goûter?
Et Elvira a droit.
Évidemment qu'elle peut
goûter.
En fait, donc, si j'ai bien suivi, on est dans du lait de vache.
On est dans du lait de vache, absolument, 100% lait de vache.
Au lait cru?
Alors non. Ah. Non, parce que le fromager a le comme il n'a pas son propre élevage, il a le souci, il a le souci de ne pas faire de bêtises. Et il est un peu parano. Il veut pas se fier au lait qu'il recevrait de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il préfère pasteuriser son fromage. Mais pourquoi est-ce aussi important? Parce que comme ça, ça ne dit rien.
Délicieux, comme
oui.
Ça.
Ouais. Ah bon.
Alors, c'est encore meilleur. Très dense, avec une belle acidité. C'est très parfumé, alors, c'est très long en bouche.
Ouais, et c'est vraiment une merveille parce que ce qu'il faut goûter pour vos auditeurs qui sont en France et qui viennent l'été en Belgique, ils doivent absolument goûter ce qu'on appelle le pot-au-caisse. Donc le pot-au-caisse, c'est le fromage et-au-caisse dont on parlait, le fromage de Bruxelles, qui est un fromage moyen, on va dire, c'est pas très bon. Ouais. C'est un fromage très fort, c'est très très salé. Donc ça aussi, petit avertissement, ne jamais manger du fromage de Bruxelles seul. C'est pas bon, ça va vous dégager.
Avec des amis, ça fonctionne.
Avec sa femme. Ou...
Donc c'est très fort, c'est très salé, c'est pas très bon. En revanche, couper avec cette chose magnifique, cette faisselle, ce manchescas, c'est délicieux. Surtout qu'on y ajoute quelques petites échalotes et surtout des radis. On met ça sur une tartine de pain gris alvéolée. Et ça, c'est le goût de Bruxelles en été. C'est délicieux. Vraiment, c'est à savourer sans limite.
Ce manchescas, vous savez que moi, j'en ferais bien en bon lyonnais une cervelle de canut.
Ah oui, bah oui. Oui,
mélange ça
oui.
avec des échalotes ben cisées, voilà, oui, des fines herbes.
Bien sûr, bien sûr.
Une giclée de vin blanc, un peu de vinaigre.
Parce que sa qualité, c'est qu'il n'est pas gorgé d'eau.
Il est assez ferme.
Voilà, il est assez ferme. Et donc, en plus, donc, c'est la fonction sur la tartine de pain alvéolée, vous n'avez pas à en avoir sur les doigts. Quoi. Mmh. Ça se tient, quoi. Et manche, en fait, c'est un petit panier en néerlandais, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que ça a ce nom-là.
D'autres produits extraordinaires dans un instant avec Michel Verlinden, mais en tout cas on retiendra. Et on trouve où ce fromage frais?
Selon l'expression chez les bons fromagers.
Chez les bons fromagers, ouais. Toutes les infos
les
de toute façon.
Les crémiers, comme vous dites en France. Ouais.
D'accord, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Est-ce qu'un stoump avec ce fromage frais, ça pourrait se faire à...
Mais évidemment. Le pot-au-caisse, comme on dit souvent, donc, est très salé. C'est un goût très particulier. Alors, je conseille juste une chose, c'est qu'il faut juste le mélanger dans une purée de pommes de terre. Ne pas rectifier le tir, point de vue assaisonnement. Et on peut y rajouter, à la fin, c'est très bon, hein, donc des petites brunoises de radis, aussi bien le radis que le vert de radis, attention. Mm-hmm. Et des jeunes oignons, c'est une tuerie. Hein.
Le stoump nous prouve que la pomme de terre ne se consomme pas qu'en frites en Belgique. On en a consommé ensemble d'ailleurs hier, on a dîné ensemble, hein, révélons nos secrets. Dans la brasserie chez François, vous le précisiez, on a mangé un stoump qui correspond en fait à une purée de pommes de terre, mais qui peut être accommodé à plein de choses en fait.
Exactement. Donc au départ, le stoump, il faut savoir que le stoump n'est pas au départ une recette belge, c'est une recette hollandaise, stampot. Stampen, ça veut dire pousser fort. Madame, vous êtes enceinte, vous allez savoir ce que c'est. Pousser fort, je vois les cheveux. Et donc le stoump, par exemple, c'est une potée de pommes de terre et de légumes. Donc parfois, on cuit la pomme de terre avec les carottes, par exemple, si on fait un stoump aux carottes, dans la même casserole. Non, pas du tout. Il faut absolument cuire les pommes de terre à part. Donc c'est-à-dire qu'il faut peler les pommes de terre, il faut couper les pommes de terre, il faut les rincer 2 à 3 fois au préalable, sinon il y a trop d'aminons dans la purée de pommes de terre, sinon ça va coller au palais. Hein? Et puis j'écrase mes pommes de terre. Après mes légumes, je les poêle au wok avec une matière grasse, huile, beurre, du bon beurre, dit. Oh, ça c'est bon, du bon beurre, hein? Du beurre salé.
Et vous savez faire question beurre aussi.
Oh là 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 là. Nous sommes l'autre pays du fromage, hein, la Belgique aussi, hein, faut pas savoir.
On est d'accord.
Voilà. Et donc, bien placé celle-là. Et donc, le légume, je le poêle avec une matière grasse. Et puis après, je vais le déglacer avec un bouillon ou alors de la crème fraîche. Et comme ma purée est chaude et mes légumes sont croquants, après, je le mélange dans une spatule et j'ai un stump aux légumes, stump aux brocolis, stump aux épinards, bien sûr, stump aux carottes. Mais on peut aller très bien, on a fait à peu près, sur les trois livres qu'on a fait sur l'histoire du stump, on en a fait 185. Donc, stump de homard, par exemple. On cuit le homard dans un bouillon, on prend le bouillon du homard, on y cuit les pommes de terre.
Alors là, c'est la version élitiste du stump, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'origine, c'est un plat d'extraction paysanne, rurale, populaire. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une légende qui disait, à la gare de Calvoet, donc qui est un peu dans la banlieue bruxelloise, où les gens, il y avait des hommes qui poussaient le tram qui était tiré par des chevaux, et on les appelait les pousseurs, les stump, les stumpers. Et ils étaient payés un petit sou, une petite bière ou deux quand même, et toujours un plat de stump aux saucisses, saucisses de campagne, qu'on appelait, on mettait le stump sur une assiette en forme de volcan, on mettait le jus de cuisson de la saucisse dans le trou du stump. Vous vous rendez compte? Et cette saucisse par-dessus.
En France, vous savez, avec la purée de pommes de terre, on appelle ça le volcan.
Le volcan.
Quand on met le jus de viande, évidemment.
C'est la gastronomie, ça. C'est purement la gastronomie. Et on peut partir dans tous les sens. Si vous avez une bonne purée de pommes de terre, après, vous faites ce que vous voulez.
Dites-moi, Albert Verdeyen, quelle variété de pommes de terre on privilégie pour cette recette de stump?
Alors, bien sûr, on prend la binche. La binche pour la purée et pour les frites.
C'est
quand,
ça.
Quand vous faites des frites, messieurs, dames, quand vous avez acheté des frites, ne jamais saler les frites. Bon sang, bonsoir. Surtout si on les prend à emporter. Parce que si on sale les frites, et chez nous à la maison, les frites sont plates. Salez les frites à la minute. Et si vous prenez une bonne mayonnaise hein, ou une bonne tartare, il y a du sel là-dedans. Donc du sel avec du sel, donc trop de sel.
C'est ça. Et bonne nouvelle, chers auditeurs et chers publics, ici à Bruxelles, les recettes de stump, quelques recettes en tout cas, puisque vous en avez créé plus de 180, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Puisqu'il n'y a pas moyen de vous procurer, de nous procurer vos livres, ils sont en rupture de stock, oui. Victimes de leur succès.
Exactement, c'est terrible ce succès que j'ai,
c'est dingue.
Oui, je suis fatigué.
On est absolument ébahis. Comment accompagner la Belgique comestible dans le verre, ça c'est le boulot de Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Ça va Dominique?
Oui, oui, ça va très bien. On peut parler bière, par exemple.
C'est une très bonne idée.
Ça vous ira.
Avec un B comme bière et comme Belgique.
Oui, ben, B comme bière, bien entendu. Voilà, parce que pourquoi? Ben, pour bien baptiser la grande boucle à bicyclette depuis Bruxelles, qui, vous le savez, est en Belgique, berceau de la BD, évidemment, eh bien, on bascule sur le grand braquet, because on ne badine pas avec les bulles belges. Bref,
waouh.
Baragouinon, bière, et sans bafouiller ni bégayer, je vais vous bichonner le sous-boc. Mais attention, attention, pas avec n'importe quelle bière. C'est la gueuse. Et pourquoi la gueuse? Alors, je suis désolé, ça commence par un G, là, c'est pas de ma faute. Et bien, c'est la gueuse, c'est un peu le blason.
La beuse, ça marche moins bien, ouais.
Ben, sauf que cette bière, c'est un peu le blason de Bruxelles et du Brabant. Et là, c'est pas de ma faute si ça commence par B, hein, vous en conviendrez. Donc, on a aussi, rassurez-vous, B comme Bicloun et B comme boire. Et je vous propose, puisque j'ai fait un petit peu les niveaux dans les verres, celui d'Elvira a un petit peu baissé de niveau, mais il en reste un peu.
On peut dire qu'il reste deux gouttes. Ouais.
Je vous ai amené une gueuse de chez Cantillon, qui est une de ces gueuseries emblématiques de Bruxelles. Et il se travaille un petit peu particulier dans le sens où ces bières empruntent beaucoup à l'univers du vin. Alors reste une question quand même, c'est quel goût ça a? Je vous laisse le goûter, ça n'a rien de consensuel, ça n'a rien d'universel.
Ça n'a rien de sucrailleux surtout.
Ça n'a rien, exactement, non, on a le droit d'être désarçonné même. Hein.
C'est B comme bon.
C'est B comme bon, voilà. Belvira, fantastique. Mais on peut même ressentir, lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on a une culture de ces bières-là un petit peu en gestation, on a le droit même de ressentir peut-être une forme de violence. Or, ça n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut comprendre que c'est la porte d'entrée vers un nouvel univers gustatif. C'est vraiment autre chose qu'il faut intégrer. Effectivement, on a de l'acidité, puis ça peut être aussi complété par des tanins. Donc, vous voyez, on navigue vraiment à des années-lumière de ce qu'est la bière industrielle, qui, vous l'avez dit, souvent a recours au sucre pour arrondir un peu ses atours, bah, qui manquent de charme, quoi. Voilà. Alors, il faut bien intégrer un truc, c'est que là, on est dans l'univers du vivant. Et pourquoi l'univers du vivant? C'est que si on parle des bières industrielles qui sont pasteurisées, qui sont stabilisées, qui sont comme figées, la beuse. Donc, c'est à boire, mais à pas fumer, hein, clairement. La gueuse peut se garder 20 ou 30 ans, donc c'est une bière de très longue garde. Pour bien comprendre quand même ce qu'est ce caractère particulier, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, la bière, c'est de l'eau, des céréales, jusque-là, la gueuse ne déroge pas. Du houblon qui est censé apporter des arômes, de l'amertume. Et là, par contre, la gueuse commence à se distinguer dans le sens où on va utiliser des houblons surannés. Surannés, donc de 2 ou 3 ans d'âge. Et donc, ils ne vont plus aromatiser cette bière, mais qui vont la structurer. Et c'est là un des gages de la longévité de cette bière. Et après, le vrai grand basculement par rapport à ce qu'on connaît habituellement des brasseries contemporaines, qu'elles soient industrielles ou artisanales d'ailleurs, elles s'en remettent, elles, à l'inox, qui est un matériau qui est fiable, mais qui est aseptisé. Or, dans les gueuseries, dans cette cantillon d'hier, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve du cuivre, on trouve du bois. Et le moût, qui n'est pas encore à l'état de bière, va être envoyé au grenier de la brasserie. Et alors là, le grenier, il faut le voir. On est quasiment comme dans un clocher en bois. C'est vraiment très spécial. Moi, j'ai eu du mal à loger mon mètre 95 dans cet environnement un petit peu... Non, merci de ne pas rire, Elvira. Et l'autre différence fondamentale, c'est que ce mou va fermenter dans une petite piscine en cuivre. Arrêtez les boissons alcoolisées.
On l'a perdu.
Une piscine en cuivre avec des levures sauvages et tout ça à l'air libre pendant
donc,
une nuit.
Fermentation spontanée.
Spontanée. Et ensuite, et voilà les avions qui viennent nous saluer. J'espère qu'ils n'ont pas bu de gueuse. Non, ça va. Et ensuite, c'est lambic, puisque c'est le nom qu'il porte à ce moment-là, va aller retrouver l'intimité d'un fût pendant 1, 2 ou 3 années. Et à ce moment-là, on va les alambiquer. Non, on va les assembler et ça va devenir cette fameuse gueuse. Reste une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on mange avec ? Donc hier soir, j'ai un peu déserté le traditionnel dîner d'équipe d'avant d'émission. Mais c'est pour la bonne cause parce que je suis allé chez Dirk Mini, les Brigitines, oh, oui. Une espèce d'institution bruxelloise. Voilà, Valérie, je vois que vous opinez
oui,
du chef.
Oh, voilà,
oui, Michel
vraiment,
valide
pour,
aussi cette adresse.
Pour moi, c'est 100%. Vraiment le restaurant bruxellois par excellence où on mange encore des plats que vous ne trouverez pas ailleurs et fait d'une manière très généreuse. Très
alors,
sincère.
Justement,
les Brigitines.
J'ai précieusement gardé le menu. Voilà ce qu'on peut aussi consommer avec de la gueuse. Terrine de museau de porc au bulot, bouillon de pie de vache, zénopote, ça
zénopote,
va vous parler.
Zénopote, oui, évidemment.
Et Pierre Tilquin était là, il nous a fait goûter une gueuse à groseille avec les produits des fruits de mer, c'est formidable. Reste juste une interrogation, c'est comment se fait-il qu'au plat pays, il y ait autant de grosses descentes ? Parce que j'étais hier avec une équipe qui vraiment s'y entend en matière de bière.
Vous parlez vélo là toujours.
Je parle vélo, mais je pense que j'aurais du mal à passer le test antidopage ce matin à cause d'hier soir. Bon, enfin bref, j'en finis là. Vous savez maintenant ce que contient le pot, le bidon du coureur belge qui va sûrement gagner sur les Champs-Élysées cette année. Et ce qui nous permet quand même, puisque la Brabançonne va enfin depuis longtemps résonner sur les Champs-Élysées pour le vainqueur des Tours de France. J'ai revisité un tout petit peu, très légèrement et très respectueusement, les premières mesures. Viens chez moi, j'habite dans une chopine. C'est la fin.
Ah, bravo. Bravo. Les bières de Cantillon, et notamment ce délicieux lambic que l'on boit, on va pas dire aromatisé, mais en tout cas coloré par du
c'est un mariage avec un vin, en l'occurrence.
Et c'est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il nous reste une poignée de secondes. Un dernier coup de cœur, Michel Verlinden. On peut... Voilà, évidemment.
Oh oui, le ah spéculoose ouais. En version cycliste
en version
de
cycliste.
Chez Nandoin. Une maison qui existe depuis avant la Belgique, un an avant la Belgique. Et qui... Bon, le spéculoose, c'est pas...
C'est le meilleur, c'est... celui de Nandoin.
Oui, ouais, clairement. C'est pas seulement la Belgique. Le spéculoose, c'est l'Alsace aussi. Hein, y en a... Mais ils ont une... Le point fort là, c'est la texture. Vous le trempez dans le café, il faut le tremper dans le café, et ça reste droit. Ça garde le croquant, et ça, c'est merveilleux.
Et on mange également là-bas de délicieuses gaufres. On s'est pas privé hier, Elvira, en école bruxelloise ou liégeoise. Voilà. Merci beaucoup, Valérie Leplat. Il y a
merci
des recettes pour faire du pistolet
oui,
à la maison.
Oui, sur le site, absolument, si l'américain, c'est... les fraises écrasées avec la cassonade, comme et ma oui. grand-mère.
Même sucré.
Ah oui, même sucré, bien sûr.
Voilà,
oui,
les tartines se mangent à toutes les sauces. Merci beaucoup, merci à tous, chers invités. On retrouve toutes les infos, vos meilleures adresses, les recettes sur franceinter.fr à la page On va déguster. On retrouve également sur le site de l'émission le dernier épisode de la saison de Tout un plat, la collection de vidéos gourmandes que nous produisons pour la chaîne YouTube et pour les réseaux sociaux de France Inter. Une vidéo qui vous donne tous les secrets du Spritz, le fameux apéro vénitien qui fait fureur en France et j'ai vu aussi en Belgique. Merci à vous, chère ville de Bruxelles. Merci à vous, Bruxellois. Merci au Tour de France. Merci aux équipes techniques de Radio France. La semaine prochaine... Il y a du On va déguster le samedi et le dimanche. Samedi à 11h, on poursuit notre voyage autour des cuisines du monde avec la Grèce au menu. Et dimanche à 11h, on restera en Grèce en direct pour s'intéresser à un fromage phénomène, la feta. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Salut, Bruxelles.
Ouais. Thank you.